Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous pour un numéro qui va inaugurer un nouveau cycle d'émissions dédiées aux communes de la métropole toulousaine. Je rappelle qu'il y en a 37 dont Toulouse et je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que très peu de citoyens métropolitains seraient capables d'en donner la liste ou de les situer toutes sur une carte. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé important de consacrer des numéros de Métropolez-vous à la découverte des communes métropolitaines, à leur histoire, leur patrimoine, leurs espaces naturels, leurs activités économiques, associatives et culturelles. Autant de sujets qui, vous le verrez, peuvent être aussi passionnants que surprenants. C'est Blagnac qui va ouvrir cette nouvelle série, une commune limitrophe de Toulouse, surtout connue pour son aéroport et les nombreuses entreprises aéronautiques ou travaillant pour l'aéronautique installée sur son territoire. Vous allez voir que Blagnac mérite qu'on s'intéresse à elle pour bien d'autres raisons et vous allez pouvoir le constater dès ce premier numéro où nous allons nous plonger dans l'histoire très riche et très ancienne de la commune. Cette émission est donc consacrée à Blagnac des origines à nos jours. Pour partir à la découverte de l'histoire de la commune de Blagnac des origines à nos jours, il fallait une personne très érudite qui ait étudié le sujet de près. J'ai donc sollicité Annie Thomas, présidente de l'association Blagnac Histoire et Mémoire. Bienvenue madame à vous aussi. Si j'imagine que de nombreux Blagnacais vous connaissent et connaissent votre association, ce n'est certainement pas le cas de tous nos auditeurs. Alors si je vous demande de vous présenter, de présenter l'association que vous présidez, et ce qui vous a amené à la créer, qu'est-ce que vous pourriez me répondre? Est-ce qu'il faut chercher du côté de votre carrière professionnelle ou plutôt d'une passion personnelle pour l'histoire en général et bien sûr en particulier pour celle de la commune que vous habitez?
Bonjour monsieur, merci de votre invitation d'abord. Nous sommes très heureux que Blagnac inaugure ce cycle. Pour répondre à votre question précisément, je dirais qu'il y a un peu des deux. J'ai fait des études d'histoire à l'université de Toulouse. Et puis ensuite, les hasards de la vie m'ont conduit à travailler dans l'administration des postes, dans le syndicalisme, à la CFDT, où j'ai parfois eu l'impression de faire l'histoire. Et ensuite de travailler aussi pour finir ma carrière, je suis retraitée aujourd'hui, mais j'ai terminé ma carrière dans la diplomatie en Espagne, à l'ambassade de France, au moment où la crise très importante économique, mais aussi sociale, a surgi. Et là aussi, mon intérêt pour l'histoire m'a servi énormément pour observer ce qui se passait dans le pays voisin et ami. Pour vous préciser, notre association, Blagnac Histoire et Mémoire, elle a une trentaine d'années. Et elle est née au départ avec comme intérêt la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous avions à Blagnac un certain nombre de résistants et le colonel Serge Ravanel, qui est une figure importante de la résistance française, qui vivait à Blagnac et qui avait ce souci de conserver cette mémoire de la résistance. Et de la même manière, ça se passait à l'époque du bicentenaire de la Révolution française. Donc tout cela a amené en fait la création de notre association Blagnac Histoire et Mémoire, qui depuis continue de plus belle. Nous sommes en quelque sorte la société historique de Blagnac. Ce que je peux dire pour terminer, c'est que nous souhaitons toujours travailler avec les Blagnacais. C'est-à-dire l'histoire s'étudie dans les sources écrites, dans des livres, dans des archives, mais les personnes la vivent et la vivent avec leur sensibilité, leur idée. Et ils ont aussi des témoignages. Par exemple, l'an passé pour le bicentenaire de 14-18, nous avons été pas inondé, mais quasiment de témoignages, de journaux intimes, d'objets que les Blagnacais avaient conservés pieusement et qu'ils nous ont remis.
Alors je crois que vous publiez aussi une revue.
Tout à fait. Nous publions une revue tous les 6 mois. Cette revue, elle se base, comme je l'indiquais, sur des travaux de nos membres. Nous sommes une quinzaine de membres actifs, à la fois avec les archives, ce que nous pouvons trouver aussi dans les livres, dans les foires aux cartes postales, mais aussi travailler avec le témoignage des Blagnacais. Et puis tous les ans, nous avons un numéro thématique. Le dernier d'entre eux, justement, ça intéresse beaucoup votre émission, puisque c'est Blagnac et son patrimoine. Et nous avons souhaité, à côté du patrimoine historique dont nous allons largement parler, mettre aussi en avant le patrimoine économique, en premier lieu le complexe aéronautique, mais aussi le patrimoine culturel à travers Audisud, l'Aéroscopia, la vie de tous les clubs de Blagnac, la société civile, et puis ce patrimoine sportif et environnemental très fort, et beaucoup de sport à Blagnac et de sportifs. Et nous avons la chance de côtoyer la Garonne et que cette zone qui côtoie la Garonne est restée quasiment comme à l'origine, ce qui fait une immense aire de loisirs et de respiration pour notre ville.
Bien, merci beaucoup pour cette présentation très complète qui nous permet de savoir d'où vous parlez, comme on dit. Nous allons poursuivre cette émission en revenant maintenant à son sujet principal, l'histoire de Blagnac, des origines à nos jours.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, la suite avec notre invitée Annie Thomas, présidente de l'association Blagnac Histoire et Mémoire. Et pour commencer ce voyage dans l'histoire de la commune blagnacaise, il me semble important, et même essentiel, de préciser l'étymologie du nom qui lui a été donné. À quelle époque apparaît le nom Blagnac et quelle en est l'origine?
Alors, la forme Blagnac telle que nous la connaissons aujourd'hui arrive véritablement au XVIIIe siècle. Au Moyen-Âge, on trouve Blagnacum, en latin, ou Blagnaco, qui est la forme romane, occitane, on peut dire, de Blagnac. Ce toponyme de Blagnac, qui se termine par AC, appartient en fait à une série fameuse de ces noms de villes qui se terminent par AC, comme Gagnac, Lévignac, si on veut parler de certaines communes voisines. Ces toponymes correspondent en fait à des domaines gallo-romains. Ce suffixe acum, qui a donné AC, en fait est un suffixe celte. Il signifie qui appartient à, le domaine qui appartient à. Et donc, si on remonte sur la forme Blagnacum, qui est la forme la plus usuelle au Moyen-Âge, qu'on retrouve dans le cartulaire de Saint-Cernin, on peut dire que cela signifie que le domaine appartient à Blagnum ou à Blagnus. Cela signifie que ce domaine gallo-romain qui a donné le nom à Blagnac, qui appartenait donc à Blagnus, qui était-il ? Donc nous n'avons rien d'écrit sur lui, et comme d'habitude, nous devons faire confiance aux historiens, bien évidemment. Pour eux, Blagnus était un Gaulois et non pas un Romain. Vous savez que lorsqu'on attribuait des domaines, les armées romaines pouvaient le faire par rapport à leurs propres généraux, leurs propres soldats, mais aussi récompenser des Gaulois qui s'étaient ralliés en fait aux Romains.
Oui.
Et ralliés en fait en tant que chef de guerre, la cause.
Oui.
Et les historiens pensent que ce Blagnius pourrait appartenir à une tribu qui s'appelle la tribu des Branovis. Cette tribu s'est ralliée très tôt à Jules César, et a émigré hors de son territoire. Ils étaient dans l'Allier, mais ils ont émigré hors de leur territoire, suivant les armées romaines. Et on retrouve sur toute la carte de France, en fait, des noms qui font référence à ces Blanovic. Je vous en ai retenu certains, Blégnac, Bligny, Blégnan, Blanet, ont tous cette même racine. Le nom de Branius aussi est intéressant en tant que tel. Et je pense qu'elle va intéresser vos auditeurs, parce que la racine Brin ou Bran, qu'on retrouve dans Branius, c'est une racine qui révèle un chef de guerre, un chef important. C'est la racine que vous trouvez dans Brennus, le fameux bouclier de Brennus,
oui.
Vous vous souvenez, voilà. Donc, ce chef important, et au-delà de cela, c'est la couleur rousse, qui était appelée ainsi aussi par ce nom Brin ou Bran, la couleur du son. Donc on peut peut-être en conclure que notre Branius était roux, peut-être, nous ne le savons pas, mais en tout cas, il était à la tête d'un domaine gallo-romain, on appelait ça une villa gallo-romaine, qui a eu une postérité absolument extraordinaire.
Alors là, on va remonter encore un peu plus loin dans l'histoire, on va revenir bien sûr à l'époque gauloise et romaine, mais à quand remontent les premières traces avérées de présence humaine sur le territoire de la commune de Blagnac ?
C'est l'archéologie qui nous guide, bien évidemment. Et en fait, vous allez être intéressé par ce fait. C'est notre modernité d'aujourd'hui qui fait émerger notre histoire la plus ancienne. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci ? C'est parce que les fouilles préventives qui ont été faites à l'occasion de la construction d'Aéroconstellation, tout le beau bâtiment Lagardère pour construire le A380, et les fouilles préventives qui ont été faites aussi pour le quartier Andromède, ont révélé de très nombreux chantiers et des traces. La plus ancienne, c'est sous Aéroconstellation. C'est moins 200 000 avant Jésus-Christ. Attention, on est là très très haut au paléolithique ancien et on a retrouvé des traces d'un atelier lithique. Ça signifie un atelier où l'on taillait des galets de Garonne pour en faire des bifaces, pour en faire des outils. Ce n'est pas une installation permanente, ce n'est pas un village, ce n'est pas une grotte comme vous pouvez trouver en Dordogne. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, L'endroit où se trouvait l'éco-station était une immense forêt, balayée par des vents glacés au fur et à mesure des glaciations, des différentes glaciations, et donc sans abri, comme les grottes ou les abris sous roches. Et donc, ces tribus passaient au bord de la Garonne. La Garonne les intéressait à la fois pour leurs cailloux, mais aussi, bien sûr,
se nourrir.
Voilà. On part très loin, on revient très très proche de nous, on fait un bond immense, jusque vers moins 2500, moins 800. Là, on est dans le néolithique, donc beaucoup plus près de nous. Vous voyez, on est une période où les hommes se sédentarisent, commencent à cultiver les céréales en particulier et élèvent du bétail. Et donc, on a retrouvé là aussi Aéroconstellation, mais surtout Andromède, une installation extrêmement importante, permanente. Ce qu'on a retrouvé qui nous a beaucoup guidés, ce sont les traces des poteaux. C'est-à-dire, les poteaux, on creuse la terre pour installer des poteaux en bois. On creuse parce que ces poteaux étaient plus ou moins carrés ou rectangulaires. Lorsque les bois se terminent, partent, la forme reste. Et donc, grâce à ces formes, on a retrouvé, on a reconstitué des bâtiments. Il y avait aussi des aires de circulation. Il y avait aussi des puits, qui est un signe à la fois d'installation humaine, mais aussi de besoin pour l'agriculture, l'irrigation, le bétail. Et deuxième découverte pour cette période, plus près de l'âge de fer, c'est la découverte, à la fin de l'âge de fer, d'une ferme gauloise. Et ça, c'est très rare, parce qu'on en trouve très, très peu. C'est une ferme qui était constituée de plusieurs bâtiments qu'on a retrouvés sur le site de Raspide, à Blagnac, entourée avec un enclos et un fossé qu'on a pu retrouver. Donc, on peut imaginer qu'il y avait une forme de protection, mais aussi pour garder les animaux. Et les chercheurs sont persuadés, sont certains même, que cette ferme existait avant la romanisation. Vous voyez, donc, c'est très rare qu'on puisse trouver une forme d'installation gauloise sur un territoire. Et les relevés ont été tellement précis que le musée Saint-Raymond a pu reconstituer cette ferme gauloise pour l'exposer dans un certain nombre d'expositions qui ont eu lieu.
Donc là, on arrive à l'époque gauloise et puis romaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme trace de ces époques? Vous avez déjà cité donc cette ferme gauloise.
L'époque gallo-romaine, c'est une époque qui a vu dont l'installation de deux ou trois villas, dont grand domaine à Blagnac. C'est une époque justement où on défriche beaucoup. Hein. Je vous ai parlé de la forêt originelle, mais cette forêt est restée pendant extrêmement longtemps. Hein. On l'avait d'ailleurs au début du Moyen-Âge, soyons clairs. Et dans cette époque-là, on commence à défricher, on s'installe. On a retrouvé au centre de Blagnac des villas avec leurs thermes, leurs mosaïques, les amphores, des objets qui sont exposés pour partie aux archives municipales ou au musée Saint-Raymond. On a retrouvé des installations de thermes, vous savez, toutes les canalisations qui ont été faites. Et aussi, lorsqu'on a fait des fouilles à l'église Saint-Pierre, on a dégagé des murs dont les archéologues pensent que ce sont des murs d'un temple qui était dédié à Jupiter. C'est-à-dire que l'église de Blagnac est construite, en fait, à l'emplacement de Jupiter. Et ça, ce n'est pas étonnant, parce que les antiquisants nous disent qu'au culte de Jupiter a souvent succédé le culte de Saint-Pierre, qui est le nom, le patron de l'église de Blagnac. Pourquoi? Parce que Jupiter, hein, c'était le roi des dieux, et Saint-Pierre, c'était quand même, après le Christ, le chef de l'Église chrétienne. Donc, cette affaire-là est intéressante.
Alors, après, quelles vont être les évolutions marquantes, les époques marquantes sur le territoire de la commune? Sous l'Ancien Régime, est-ce qu'il y a eu des événements particuliers?
Au Moyen-Âge, il y a eu des dotations qui ont été données. C'est là où on retrouve pour la première fois le nom de Blagnac. Le comte Guillaume IX a donné les terres de Blagnac au chapitre de Saint-Cernin. À l'époque où il avait conquis la ville de Toulouse, il disputait le comté de Toulouse au comte de Toulouse. En 1307, de la même manière, il y a eu une donation du roi de France, Philippe Bel, à Géraud de Baleine, qui est devenu le premier baron, en fait, de Blagnac. Et c'est ensuite la famille de Voisin qui a régné pendant plusieurs siècles. Mais la baronnie, qui était très grande, qui allait des deux côtés de la Garonne, qui allait jusqu'à Seille, s'est racornie petit à petit. Et à la veille de la Révolution, il y avait le baron Amieux. En fait, c'était une toute petite baronnie. Et en fait, la Révolution a enlevé totalement tous ses privilèges.
Alors justement, on arrive à la Révolution française, période troublée s'il en est. Est-ce qu'à Blagnac, il s'est passé des choses particulières sous la Révolution et après, je pense à la Terreur, mais même les années qui ont suivi, jusqu'au Premier Empire?
Alors, ce qui s'est passé à Blagnac, a participé à tous les travaux qui ont précédé les États généraux. Hein. Il y avait trois Blagnacais qui ont participé aux États généraux à Toulouse, qui ont élu les députés. Il y a eu un cahier de doléances qu'on possède encore, qui est très intéressant parce qu'il met vraiment l'accent sur la rudesse de la vie, en particulier la vie paysanne, mais aussi des pêcheurs, avec des étés extrêmement chauds et des hivers très rigoureux. Donc, ça nous éclaire bien sur tous les problèmes. Le cahier de doléances, vous ne serez pas surpris, met l'accent aussi sur les problèmes liés aux taxes et aux impôts du royaume. Et une demande très particulière qui est la création d'un maître d'école. Donc on voit bien que là, il y a une demande d'une communauté qui commence à s'organiser, qui a besoin de former de manière plus suivie ces jeunes enfants et demande l'attribution et le paiement par la puissance publique, on peut dire, d'un maître d'école. Vous parliez de la terreur. Pas vraiment d'exécution telle qu'on pouvait le voir dans d'autres,
ailleurs, oui.
Non, dans d'autres villes ou à Toulouse. Il y a eu un épisode en l'an 7 qui était une rébellion aristocratique hein, des royalistes. Blagnac a été en partie concerné par cet épisode. Les républicains blagnacais ont poursuivi les royalistes. Il y a eu une bataille, il y a eu des morts. Voilà, tout ce qui s'est passé. Je dirais que pour le 19e et le 20e siècle, ce qui s'est passé à Blagnac, ça a été au gré des événements nationaux et régionaux, bien évidemment, avec des élus parfois antagonistes, en particulier républicains. J'évoquerai hein, le républicanisme à Blagnac, mais aussi royaliste. Hein, il y a eu un vrai niveau important. Je voudrais peut-être citer ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, bien sûr. Autre époque troublée, évidemment, l'occupation.
L'occupation, voilà. Vous avez dit ce mot qui était très important. Mais avant même l'occupation, en 1939, quand la guerre est déclarée, le développement est demandé dans la production des usines aéronautiques par le ministère de la Guerre. Et dont les D-520 qui étaient produits à ce moment-là par l'usine de Voitine ont vraiment, le paquet a été mis, on a embauché des femmes comme riveteuses, des républicains espagnols, on a fait venir des ouvriers de Saint-Nazaire. Quand en 40 c'est terminé, la production cesse. Mais en 42, les Allemands arrivent dans la zone libre, occupent immédiatement l'aéroport, occupent aussi l'usine de Voitine, raptent la production à leur profit. On peint sur les avions les fameuses croix noires de l'armée de l'air allemande et c'est un moment très difficile. J'évoquais tout à l'heure la résistance. Il y a eu, nous savons, de nombreux faits de résistance dans ces usines. C'était extrêmement dangereux. On pouvait être déporté, fusillé et certaines l'ont été. J'évoquerai aussi le printemps et l'été 44. Parce que Toulouse a été l'objet de bombardements, essentiellement les aéroports, Blagnac, mais aussi Francazal, et les usines aéronautiques, et dont il y a eu d'énormes dégâts. Heureusement, le village lui-même n'a pas été touché, mais nous savons, et nous avons même des photos, un avion allemand est tombé sur l'église de Blagnac, sur l'église Saint-Pierre, emportant une partie de la voûte, la tribune, ainsi que l'orgue qui a dû être refait après-guerre. Quand les Allemands partent le 19 août, ils font sauter un train de munitions. Ils font sauter une réserve de V1 et de V2 qu'ils avaient là. Ils incendient les maisons réquisitionnées. Donc, on est passé très près d'une catastrophe, en fait, soyons clairs. Et toute cette partie de l'aéroport a été détruite, a dû être reconstruite ensuite. Et donc, je termine en disant que l'événement principal pour Blagnac, c'est que après la guerre et jusqu'aux années 50, à partir des années 50, on n'est plus du tout dans la même dimension. Blagnac décolle. Hein, c'est un jeu de mots facile oui. Hein, que je peux faire, mais décolle au niveau de l'activité économique, au niveau de la démographie. Pendant très longtemps, la population de Blagnac a oscillé entre 1000 et 2000.
Et essentiellement voilà. Agricole, je suppose.
Oui, mais aussi artisans, mais beaucoup de pêcheurs.
La Garonne, évidemment.
On y reviendra peut-être quand on évoquera le territoire. La Garonne, vous savez, il y avait plus de pêcheurs que d'agriculteurs à l'époque moderne à Blagnac. Ça surprend toujours parce que la Garonne était très poissonneuse, mais aussi on y pêchait le sable.
Oui, on recueillait le sable, les graviers, les galets.
Le galet, absolument. Ouais. Voilà. Donc, on change de dimension. En 1962, on dépasse les 5000 habitants. C'est le moment où on a terminé Caravelle. On va commencer Concorde, la production de Concorde. Voilà, c'est là où les choses se passent. Donc c'est ça qui est important pour Blagnac au XXe siècle. On change de niveau.
Alors peut-être pour terminer, les personnalités marquantes de la commune à travers l'histoire, peut-être pas toutes, mais en tout cas il y en a certainement quelques-unes qui ressortent du lot.
Ça fait. Il y a d'abord Saint-Exupère, qui a été le 6e évêque de Toulouse, qui a vécu au 4e et 5e siècle. Il est connu pour avoir fait fuir les Vandales grâce à son aspersoire d'eau bénite. Il venait sous les remparts de notre ville capitale et on les a fait fuir grâce à cela. Et le rapport avec Blagnac, c'est qu'il avait une petite maison à Blagnac où il venait se reposer. Des fatigue de l'épiscopat. Et là, il aimait beaucoup, parce que c'était un enfant de la terre, c'était un enfant de la montagne, il était né à Arreau. Il aimait aussi les habitants. Et c'est là où il est mort et où il a été inhumé. Et on a retrouvé son corps 100 ans après, et ses reliques ont été transportées à Saint-Cernin. Voilà le lien de Saint-Exupéry avec Blagnac.
Saint-Exupéry, c'est début du 5e siècle, hein,
absolument,
pour situer.
Absolument, tout à fait. Donc, voilà.
C'est très ancien.
Très ancien. Je passe au début du 19e siècle avec une bienfaitrice, mais vous verrez qu'elle a un lien avec Saint-Exupéry, puisqu'elle appartenait à la confrérie de Saint-Exupéry, qui est restée très active. Elle faisait de très nombreux dons à l'église et à la communauté, et pour l'honorer, les bailes de la confrérie lui ont fait faire un portrait, un tableau qui est aujourd'hui dans l'église de Blagnac, mais vous verrez comment il est arrivé dans l'église de Blagnac. Ce portrait, il a été fait par Guillaume Roch, un petit peintre de notre région, mais elle est de pied, pratiquement grandeur nature, une femme très simple, très calme, avec un panier de raisins à la main, un outil de jardinage. Et ce tableau, en 1980, il y a un inventaire qui est fait, qui est demandé, et on ne le trouve pas. Il a disparu. Branle-bas de combat, on ne le trouve pas. Et puis quelques années après, il y a une exposition au Capitole de portraits. Et un Blagnacais un peu malin voit ce tableau et se dit « mais c'est le tableau de Jeanne Lussan ». Elle s'appelait Jeanne Lussan. Il pose quelques questions, sûrement il attire l'attention. Il repart d'Ardard à Blagnac, il va voir ses amis qui connaissent bien le tableau. Et le lendemain, avec ses amis, il repart à l'expo. Et le tableau n'est plus là. Il a disparu à nouveau. La mairie porte plainte. Et en 2000, nouvel inventaire demandé par les monuments historiques. Et là,
il réapparaît.
Il réapparaît, roulé, caché dans des locaux municipaux, très abîmés bien évidemment. Et il réapparaît en 2000. Donc nous ne savons pas qui a volé. Jeanne Lussan est revenue. Si jamais un de vos auditeurs a une idée, bien évidemment, nous sommes preneurs. Dernière personne peut-être, Bertrand Lavigne, qui a été maire de Blagnac et qui était un républicain et un libre penseur extrêmement important pour notre commune. Il a accueilli avec beaucoup de bonheur la révolution de 1848. C'est un de nos maires qui a été à la fois nommé, élu et révoqué en l'espace de 4 ans. En 1948, il est déjà conseiller municipal, le commissaire du gouvernement révolutionnaire le nomme maire de Blagnac. Les élections ont lieu quelques mois après, en juillet, il est élu triomphalement. 2 ans après, en 1852, le futur empereur Napoléon III commence à préparer un petit peu son futur coup d'État et demande au préfet de révoquer les maires dont il pense qu'ils ne vont pas le soutenir et dont Bertrand Lavigne est révoqué. Quelques mois après, en 1952, il y a des élections municipales, il se présente, il est élu triomphalement. Et il démissionne pour ne pas prêter serment à l'empereur Napoléon III, qui est devenu Napoléon III.
Voilà. Le Second Empire commence
donc,
en 1852.
Il a été, pendant ses 18 ans d'Empire, un opposant farouche. À la fin de l'Empire, 18 ans après, Gambetta, qui est ministre de l'Intérieur, le nomme sous-préfet à Saint-Gaudens et à Villefranche-de-Lauragais. Ensuite, il devient conseiller municipal à Toulouse, délégué à l'instruction publique. Il a le temps d'écrire une histoire de Blagnac qui, pour nous, est notre Bible, soyons clairs. Et il meurt, malheureusement, en descendant d'un omnibus. Et il y a près de 20 000 personnes qui suivent ses obsèques. Et c'est Jean Jaurès qui l'a remplacé à son poste de délégué de l'instruction publique. Voyez-vous, ça n'est pas rien.
Quelle destinée.
Quelle destinée, absolument.
Et quelle histoire que celle de Blagnac, parce que nous sommes malheureusement arrivés au terme de ce numéro de Métropole et vous. On conclut. Un grand merci à vous, Annie Thomas, d'avoir été l'invitée de ce numéro et d'avoir été notre guide dans cette découverte de l'histoire de Blagnac des origines à nos jours. Je suis persuadé que nombre de nos auditeurs auront été étonnés par plusieurs des faits que vous avez relatés et qu'ils vont avoir envie d'en savoir encore plus. J'invite donc toutes les personnes intéressées à se connecter au site web de l'association que vous présidez, Blagnac Histoire et Mémoire, à l'adresse www.blagnachistoire.e-monsite.com. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous donc la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.